RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
La suite des grandes gueules sur RMC, la radio RMC Story, la télé, avec autour de la table aujourd'hui Charles Consigny, l'avocat, Zora Bitan, la fonctionnaire, et notre entrepreneur dans la transition écologique, Flora Guebali. Place à l'invité.
RMC, face aux grandes gueules.
C'est le général Vincent Desportes. Musique militaire, bien sûr, qui est face au GG. Mon général, bonjour.
Bonjour.
Ça vous plaît?
J'adore.
Bon,
c'est de la vraie musique, ça, enfin.
Ben oui, enfin. Stratégie, les essentiels, c'est le titre de votre dernier ouvrage, La pensée et l'action, chez Odile Jacob. Ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz n'est pas rassurant. Est-ce que la guerre a repris, finalement, avec ces cargos qui sont visés, un cargo français visé par le régime iranien et un cargo américain qui a été arraisonné par les Américains?
Non, moi je ne crois pas que la guerre ait repris. Moi je pense que des deux côtés, on a envie d'arrêter, mais qu'on est en train de faire monter les enchères. Ensuite, on a eu le clown de service à Washington qui, après que les Iraniens aient réouvert le détroit, eux ne l'ont pas réouvert, si vous voulez.
Et clown de Washington, pour qu'on comprenne bien, c'est Donald Trump.
En gros.
Vous ne l'aimez pas beaucoup.
Mais c'est pas que je l'aime pas beaucoup.
Bah, vous l'appelez
clown. Il nous casse le monde. Ensuite, il n'arrive pas à trouver de solution. Il n'a rien compris à ce qu'était la diplomatie. Il ne va pas négocier, Islamabad. Il va demander une reddition sans condition. Ce qui est dans la culture américaine, que je connais bien, c'est comme ça. Et donc, ce type-là, dans cette guerre-là, il a fait exactement ce que Churchill disait des Américains. Il disait, les Américains, ça essaye sans mauvaise solution et à la fin, ça en trouve une. Le problème, c'est que quand vous faites comme ça, c'est que quand vous agissez sans stratégie, eh ben, c'est quand même très compliqué de se sortir du foutoir que vous avez organisé.
Vous pensez quand même que les pourparlers vont pouvoir reprendre dans ce contexte?
Alors moi je pense qu'ils vont reprendre parce que les uns et les autres, les deux parties ont besoin, pour des raisons différentes, pour des raisons politiques du côté de Trump, bien sûr. Hein, il est de plus en plus attiré, il se rapproche des mi-termes. On sait que ce matin, il n'y a que 36% de la population américaine qui le soutient. Ça fait pas assez pour garder la Chambre des représentants et il en a besoin. Les Iraniens ont besoin au moins de temps pour se refaire après la très très grosse claque militaire qu'ils ont pris pendant un mois et demi. Et le problème des gardiens de la Révolution qui sont aux affaires maintenant, c'est de rester au pouvoir. Or, si l'Iran est trop cassé par une deuxième vague de bombardements, on va vers une crise économique terrible qui pourrait entraîner leur
crise économique qui, d'ailleurs, est accentuée par le blocus, parce que j'imagine que ce blocus va commencer à leur faire du mal aux Iraniens.
Bien sûr, bien sûr. Alors, on dit que l'argent perdu tous les jours se compte par centaines de millions, 4,5 paraît-il. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent. On dit aussi que les Iraniens avaient accumulé des ressources qui leur permettent de tenir. Mais on voit bien aujourd'hui que ça ne peut pas durer très longtemps. Alors, selon les chroniqueurs, ça peut durer entre un mois et trois mois, mais on voit bien qu'il y a aussi une date butoir. Mais pour les deux, on s'approche du moment où, quoi qu'il arrive, on devra arrêter.
Le cessez-le-feu s'arrête dans la nuit de mardi à mercredi, hein, officiellement.
Absolument. Nous ne serions pas très surpris si Trump le rallongeait de 10, 15 jours ou plus, puisqu'il le fait à chaque fois. Mais encore faut-il que les conditions aient été créées, que des deux côtés, effectivement, Trump se dit « bon, j'y vais ». Parce que l'autre solution, c'est de commettre des crimes de guerre qu'il a annoncé qu'il allait réaliser dans les semaines à venir. Il a dit « je vais détruire toutes les installations, tous les ponts civils ». Ça s'appelle des crimes de guerre. Convention de Genève de 49, et traité de Tokyo en 1998, si vous voulez. Donc ça s'appelle des crimes de guerre. Donc soit il continue, mais il rentre totalement dans une démarche qu'il ne dominera plus, soit il arrive à négocier. Donc je le répète, et je crois que la plupart des observateurs sont d'accord, à peu près d'accord avec moi, les deux ont intérêt à négocier. Mais personne ne veut perdre la face et c'est pas des bons négociateurs dans ce sens où les Iraniens, on le sait, tergiversent, ne veulent pas déboucher vraiment et pas trop vite. Et quant aux Américains, ils ne négocient pas puisqu'ils veulent la reddition sans condition.
Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez chef d'état-major de l'armée américaine? Qu'est-ce que vous feriez une fois que une fois empêtré dans ce merdier. Comment feriez-vous pour en sortir ?
Alors, at the first place, comme diraient les Américains, je ne serais pas allé dans ce merdier-là. Et peut-être que Daken a eu du courage, parce qu'il a dit, enfin, il a dit au président Trump avant le début de la guerre.
Expliquez de qui vous parlez.
Alors, c'est le chef d'état-major des armées américaines qui a dit, voilà ce qui risque de se passer. Mais il n'a pas pris position. Il aurait peut-être pu prendre position. Moi, je me rappelle, j'étais diplomate à l'ambassade de Washington, de France à Washington à ce moment-là. Le général Franck, qui a dit à Bush fils, n'y va pas. Là, tu rentres dans un foutoir. Et d'ailleurs, le foutoir, vous le savez, n'est toujours pas terminé. La guerre en Irak, 23 ans après. Et donc là, je pense qu'à un moment donné, le chef militaire, il se soumet ou il se démet. Et peut-être que dans cette affaire-là, il aurait dû se démettre. Mais le problème, c'est qu'il a été choisi par Trump. Pourquoi ? Parce qu'il a remplacé quelqu'un que Trump a viré. Et donc, il a été choisi parce que c'était un fidèle parmi les fidèles. Et que donc, ayant été choisi comme fidèle parmi les fidèles, il est resté...
Oui, mais une fois qu'on en est là, une fois que c'est fait là, dans la situation actuelle, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Est-ce qu'ils s'en vont, tout simplement ? Ils retirent les troupes et on laisse les Iraniens reprendre le cours normal de leur existence ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, d'abord, notons que on est dans cette situation-là, non seulement parce que cette guerre n'a pas été pensée au niveau stratégique, mais également parce que Trump lui-même, en 2018, a cassé le JCPOA et au mieux, c'est-à-dire le traité qui avait été négocié pendant de longues années entre Français, Allemands, États-Unis, Chine également. Hein, si Trump n'avait pas cassé en 2008 cette affaire-là, on n'en serait pas là. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? De toute façon, on ne sortira de cette affaire-là que par la diplomatie. Il faut bien comprendre une fois pour toutes que les guerres d'aujourd'hui ne s'arrêtent jamais. Les guerres pouvaient s'arrêter avant quand elles étaient un dialogue entre deux autorités politiques. Aujourd'hui, il y a eu une espèce de socialisation de la guerre qui fait que la guerre, finalement, elle appartient au peuple, comme elle a appartenu au peuple vietnamien, au peuple iranien, au peuple afghan, si vous voulez. Donc, cette guerre ne s'arrêtera pas par la force militaire. Elle s'arrêtera par les négociations.
Sauf si le régime était tombé. Parce que on peut imaginer que le scénario qu'on a vendu à Donald Trump et qui était très positif, c'est voilà, on bombarde quelques jours, le régime s'effondre, la population prend le pouvoir et derrière on part sur une nouvelle étape à écrire, un nouveau chapitre à écrire.
Ça s'appelle du rêve éveillé. Parce que quand vous regardez justement les guerres américaines, si vous voulez, il y a eu un accord, hein, et puis deux ans après, les Vietnamiens du Nord sont venus regarder la guerre en Irak. On a dit on va bombarder et on va produire la paix, non seulement, mais une très très belle démocratie jeffersonienne à Bagdad. Ça n'arrive, enfin, et en Afghanistan, c'est exactement la même chose, si vous voulez. Ça n'arrive jamais. Ça ne peut pas arriver, cette affaire-là. Donc, c'est pour ça que, ce qui est très étonnant, moi, je connais assez bien les militaires américains, j'étais deux ans dans l'US Army, j'ai fait l'école des généraux américains, ces gens-là pensent bien. Il pense bien, mais à un moment donné, quelqu'un a manqué de courage politique pour dire ne rentre pas à nouveau dans cette affaire-là. Ou alors, il fallait faire de la stratégie. On a compris, encore une fois, que la veine jugulaire iranienne, c'était le détroit d'Hormuz. Mmh. Alors, il fallait la serrer tout de suite. Alors, on pouvait monter une opération autour
du détroit d'Hormuz. C'était plus efficace de bloquer le détroit d'Hormuz tout de suite que de bombarder, en fait.
Mais évidemment.
Après, ça déstabilise aussi le marché du pétrole.
Mais il est déstabilisé de fait.
Et je pense que là, enfin après, c'est facile de dire derrière. Ah oui, bon, mais néanmoins, vous savez, et vous le lisez évidemment dans mon ouvrage, le stratège va chercher les points de meilleur rendement. Et le point de meilleur rendement, visiblement, c'était pas de bombarder pendant 5 semaines. C'est là, en quelques jours, le détroit d'Hormuz a tout changé. Donc, on voit bien qu'on avait un point de vulnérabilité qui pouvait lui mettre attaqué avec des moyens beaucoup plus faibles. Il fallait en même temps prendre tous les moyens pour protéger les pays du Golfe. En se concentrant sur cette affaire-là, et là, on avait quelque chose à faire qui aurait été vraiment stratégique et intelligent.
Zorabitan.
Alors moi, j'ai deux questions. D'abord, la première question, c'est est-ce que les positions de Trump aux États-Unis au niveau de la population, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que les Américains suivent ? Et ensuite, est-ce que cette guerre ne met pas en danger plus que prévu la sécurité d'Israël ?
Alors,
Les Américains suivent ou pas ?
D'accord. Alors, je vais vous le dire parce que les chiffres de ce matin, c'est qu'il n'y a plus que 36% de la population américaine qui soutient cette guerre. Oui. Donc, c'est quand même assez clair.
Oui.
Et quand vous allez au mi-terme dans peu de temps, il faut qu'il trouve une solution. C'est pour ça que lui, il veut s'en sortir, si vous voulez. Bon. Et est-ce que ça ne met pas plus en danger les Israéliens? Alors, je dirais, c'était peut-être à eux d'y réfléchir avant. Parce que on ne peut pas évacuer l'hypothèse qui est la mienne. C'est que quand même, c'est Netanyahou qui a poussé Trump dans cette affaire-là sur un motif d'ailleurs essentiellement technique, hein. Le 28 février au matin, on a tous les chefs, on tue tous les chefs et la guerre est terminée. Bon, évidemment, ça n'a pas marché. Donc, alors oui, ça met en danger, mais je crois que là, ils ont créé cette situation-là. Les Israéliens ne peuvent pas dire le contraire. Et d'autre part, il y a toujours cette vision qu'on trouve chez un certain nombre de ministres israéliens, ministre des Finances, ministre de la Sécurité, je crois, cette idée du grand Israël. Et je crois, et on le comprend, il y a une réflexion, enfin une pensée israélienne, qui est peut-être pas majoritaire, mais qui est importante, mais qui est de dire, on va agrandir le territoire pour être de moins en moins en danger. À mon avis, il y a peu de chances qu'ils lâchent la zone au sud du Litani. Ils ont pris une partie non négligeable de la Syrie. Et Netanyahou et beaucoup d'Israéliens pensent d'ailleurs que il faut en passer par là. Oui, ça les met en danger, mais on voit bien d'ailleurs que la population israélienne largement derrière.
Est menacée directement par l'Iran depuis des années. À la limite, Israël a plus de raisons d'en vouloir à l'Iran que les Américains par rapport aux menaces sur le nucléaire, sur les missiles, menaces
sur le terrorisme,
de destruction, et sur le financement des proxys comme le Hezbollah ou le Hamas.
Mais bien sûr, on le comprend bien. C'est pour ça que
le 7 octobre a tout changé pour Israël.
A beaucoup changé. Et ce qui est sûr, justement, c'est que les Israéliens, eux, font la stratégie parce qu'ils ont un objectif.
Ils font les stratégies.
Et ils font la stratégie, alors que les Américains sont suiveurs et n'ont pas vraiment d'objectif. C'est un peu la difficulté. Et c'est vrai que l'Iran est une menace existentielle, mais on était quand même arrivé à peu près en 2018 à une situation qui pouvait évoluer.
Ouais, enfin, on a vu que vous avez menti puisqu'il y a des stocks d'uranium cachés.
Non, mais ils ont menti. Ils ont menti. Je vous dis pas que les Iraniens, moi, je suis pas fanat iranien. Attention, hein. Enfin, Hezbollah. Pas Hezbollah, du régime.
Mais enfin, ils financent quand même le terrorisme.
Mais bien sûr.
Non, mais même sur l'uranium, l'uranium.
Mais sur l'uranium, à partir de 2018 que ce stock-là a été créé. C'est pas avant. Et si le JCPOA n'avait pas été rejeté par Bush, on n'en serait pas là.
Le JCPOA, c'est l'accord sur le nucléaire iranien, qui avait permis à une époque, non, il faut rappeler à nos auditeurs, qui avait quand même permis à une époque de réouvrir l'Iran, de commencer à commercer entre les pays. Est-ce que vous pensez pas qu'une piste comme ça, elle est plus fonctionnelle que la guerre?
Mais moi, je le pense infiniment. Vous savez, un soldat.
À cette époque-là, les cadres français de nos entreprises allaient tous en Iran pour ouvrir des marchés.
Air France, de nouveau,
et après, ils sont partis d'un coup à cause des États-Unis.
Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il fallait être faible avec l'Iran. Il fallait être très fort, surveillé, etc. Mais quand vous êtes soldat, vous savez bien que la guerre n'est jamais le meilleur moyen.
Voilà.
Et que la guerre, on doit toujours, ça c'est la vieille rapport entre la morale et la guerre. La guerre doit être le dernier argument, hein, on le dit.
J'ai un déporte, on veut tout et son contraire, pardon, mais quand les Iraniens sont sortis dans la rue et qu'ils ont été très durement réprimés par le régime, on dit entre 30 et 40 000 morts, hein, en 48 heures. C'est-à-dire que le régime a tiré sur sa propre population. Et elle fait un carnage. Pardon, mais à ce moment-là, j'entendais les gens dire « qu'est-ce que fait Trump? Pourquoi il attaque pas? Pourquoi il les aide pas à ce moment-là? Pourquoi il bombarde pas pour que les Iraniens puissent se libérer ?» Puis alors maintenant, on dit à Trump « il faut arrêter cette guerre qui ne sert à rien ». Alors peut-être qu'effectivement, il fallait que les Américains aident précisément à ce moment-là la population iranienne en aidant à faire tomber le régime.
Mais alors,
est-ce que... Et dans ce cas-là, aujourd'hui, on serait tous à applaudir en disant « Ah, Trump, quel stratège formidable !»
Ah oui, on peut pas le dire maintenant. Non, mais est-ce que vous pensez vraiment, Monsieur Truchot, que la population iranienne ait été un millième de seconde dans la pensée de Trump? Je ne le pense pas. Pas plus que la population vénézuélienne.
Oui, mais je connais en revanche beaucoup d'Iraniens, même sur place, qui souhaitaient cette intervention
militaire.
Bien sûr,
mais parce qu'ils ne comprenaient pas.
Parce qu'ils sont désespérés, ils se disent finalement la seule façon de s'en sortir, c'est les bombardements israéliens et américains.
Mais justement, c'est pas les bombardements. C'était possible, il fallait monter une stratégie, si vous voulez.
Oui.
Il fallait qu'il y ait des troupes locales. Et c'était possible de les monter, capables d'aller prendre le pouvoir. Vous savez, vous ne gagnez jamais la guerre en bombardant. Ça, c'est depuis qu'on s'est bombardé, on sait qu'on ne gagne pas la guerre en bombardant. Et donc, il fallait qu'il y ait, et vous gagnez toujours la guerre avec des troupes au sol. Parce qu'à la fin, il faut faut bien planter votre drapeau ou le drapeau de l'autre, si vous voulez. Et là, il y a personne pour
Est-ce
le
que
faire.
Vous pensez Trump capable d'envoyer des troupes au sol.
Donc, ça aurait pu être organisé. Ça aurait pu être organisé, mais avant, dans l'ensemble d'une grande stratégie. Et ça, ça n'a pas été fait. Je vous écoute.
Non, est-ce que vous pensez Trump capable d'envoyer des troupes au sol?
Non. Non, pour une bonne raison. Des troupes au sol.
Il y a un passif, quoi. Il y a des dossiers là-dessus.
C'est pas possible pour deux raisons, si vous voulez. La première raison, c'est que quand vous envoyez des troupes au sol, vous le faites ou vous ne le faites pas. Mais si vous le faites vraiment. Ce qui a été fait, à tort ou à raison, dans les deux guerres d'Irak, 90 et 2003. Et là, ils ont envoyé 250 000 personnes. Et pour mettre 250 000 soldats de l'armée de terre en place, il faut 6 mois. Mmh. Il faut 6 mois. Donc ça nous amène au mi-terme. Ça nous amène au mi-terme. Et après la guerre, elle prend encore 6 mois. Donc on est dans un autre schéma. Je ne dis pas que ça ne se fera pas, mais dans les conditions politiques actuelles dans lesquelles se trouve Trump, ça ne se fera pas.
L'engagement de Trump, c'était pas pour sauver la population du régime iranien. C'était pas sa priorité.
C'était même pas dans sa vision.
Oui, c'était
si
même pas dans
ça
sa
n'était
vision.
Même pas dans sa vision. Mais c'était possible.
C'était autre chose.
C'était une autre guerre. Il fallait la faire autrement.
Allez, d'autres questions au général Desportes au 32-16. Hein, n'hésitez pas à nous appeler. C'est le général Vincent Desportes qui est face aux grandes gueules. On parle de l'Iran, de la guerre. Tiens, on parlera aussi de la position française. Oui. On a du mal à la définir. Est-elle équilibrée? Est-ce que la France devrait aider les Américains à se sortir de ce bourbier? À tout de suite sur RMC RMC Story.
RMC, 9h midi, les grandes gueules. RMC,
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Le général Vincent Desportes est face aux grandes gueules ce matin sur RMC, RMC Story, face à Zora Bitan, Flora Gebali et Charles Consigny. Général Desportes, et la France dans tout ça? Quelle est la position française? Alors, elle se veut équilibrée, on dit qu'on n'est pas dans cette guerre, mais est-ce qu'il serait pas temps finalement d'aider nos amis américains à sortir de ce bourbier?
Alors moi, je crois, si vous voulez, on peut pas avoir été méprisé et injurié par le président Trump pendant des mois et des mois, qui a même voulu s'emparer d'une petite partie de l'Europe qui s'appelle le Groenland, et ensuite, au coup de sifflet, arriver. C'est-à-dire, les Américains sont habitués à ce que les Européens soient des vassaux.
Et effectivement, soit regarde à vous.
Soit regarde à vous. Et effectivement, on l'a été, parce qu'on l'a bien voulu, énormément. Mais on a bien compris aujourd'hui qu'au fond, il y a un schisme occidental et qu'il y a les Américains d'un côté et nous d'autre part. Donc, on n'a pas à arriver comme ça au coup de sifflet. D'autre part, bien sûr, nous avons des moyens militaires qui sont très loin, nous, Européens, d'être négligeables, et la France en particulier. Mais c'est rien par rapport aux moyens américains. Si on n'est pas, on ne sera jamais un game changer dans cette affaire-là. Donc, on n'a pas à venir. Nous ne sommes pas des supplétifs. Moi, j'ai été très frappé par la guerre en Afghanistan, qui était la plus longue guerre européenne. On a eu 30 000 soldats au combat pendant 12 ans ou 13 ans.
30 000 soldats français.
Hein. Soldats français au combat. Et on n'a jamais eu droit à la parole dans cette affaire-là. On était vraiment considérés comme des supplétifs, c'est-à-dire que les Américains prenaient soin de répartir les bataillons allemands, français, espagnols, un peu partout, de manière à ce que ce soit toujours un chef américain qui y gagne. Nous, en tactique, on a été très bons, la stratégie était mauvaise, mais la stratégie a été faite par Trump. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'un truc qui n'a pas marché et d'être
l'outil de rattrapage. Oui, mais en même temps, pour y aller sur le Liban, on est exclu, alors qu'on a des relations très anciennes avec le Liban, on a l'impression qu'on n'existe plus, alors qu'on aurait peut-être une carte à jouer. Alors, est-ce que parce que c'est nos propres manquements, on n'a pas réussi non plus à aider le Liban à sortir sa dépendance au Hezbollah, est-ce qu'on n'a pas aussi manqué parfois un peu de volonté?
Moi, je crois.
Les volontés dans les mots, c'est Emmanuel Macron quand il va à Beyrouth, il est très volontaire, mais enfin ensuite, il y a pas que dans
les
derrière.
Non, il y a pas que dans les mots. D'abord, nous sommes le plus gros contingent. Sauf si je me trompe, je crois pas français est le plus gros contingent de la FINUL. Nous sommes le pays européen qui apportons le plus d'aide au Liban.
La FINUL, elle a servi à quoi la FINUL sur place? Elle n'a pas désarmé le Hezbollah. Malheureusement, elle est la cible de tir. On a perdu un soldat français. C'est sans doute d'ailleurs le Hezbollah qui l'aurait tué.
Voilà. La FINUL, c'est pas une force qui a été chargée. Elle n'est pas équipée pour aller désarmer le Hezbollah. On a bien compris, puisque même l'Israélien n'y arrive pas, que c'est vraiment une guerre. Elle n'a pas été faite pour ça. Elle a été faite pour séparer, au contraire, des contingents qui voulaient se faire la guerre. Je note que le président Aoun a très largement dit que la France était importante et encore maintenant. Alors maintenant, qui a dit la France, vous venez pas? C'est qui? c'est le Premier ministre Netanyahou. Pourquoi? Ben parce que la France a eu le courage, hein, de reconnaître Gaza comme État, comme maintenant de nombreux pays européens. Et je crois que c'est bien. Moi, je crois que la France et l'Europe, parce qu'on peut pas dissocier la France de l'Europe, eh bien, doit se tenir droit dans ses bottes. Ce qui nous différencie des États-Unis, c'est notre respect d'un certain nombre de valeurs occidentales et le respect du droit international que tant Netanyahou que Trump ou que Poutine bafouent tous les jours. Moi, je crois qu'il faut se tenir à ce qu'il nous a fait, c'est-à-dire le droit.
Mais dans
ce
cas-là, il faut être moins dépendant des Américains. Notre armée reste encore très dépendante des Américains. Certains canons ne peuvent pas être utilisés, ceux qu'on envoie en Ukraine sans que les Américains donnent leur autorisation. Il faut sortir de cette dépendance.
Vous avez mille fois raison. Et c'est pour ça, mais vous avez noté, vous me posez la question, mais vous connaissez une partie de la réponse, peut-être plus. Vous savez très bien que l'Europe est en train d'essayer de construire son autonomie. Et elle avance à grands pas. Elle a une difficulté, vous le savez, c'est qu'à part un décideur, il y en a 27. Et c'est pour ça aussi qu'il faudra rapidement changer la gouvernance de l'Union avec son machin tripartite, la Commission, le Conseil et le Parlement. Ça marche pas, ce truc-là. Donc on voit bien que la France a absolument besoin de l'Europe, mais pas de cette Europe-là. Une Europe qui permette d'avancer dans les grands projets avec l'autonomie industrielle, l'autonomie numérique...
Et l'autonomie militaire.
L'autonomie militaire, bien sûr, c'est la première. Mais il n'y a pas d'autonomie militaire si vous n'avez pas d'autonomie industrielle. On voit bien que tout ça est lié. Les projets avancent, en particulier depuis la création du groupe E6 en janvier, avec les grands pays européens qui ont la volonté d'avancer sur les grandes voies de l'autonomie.
Quand on vous écoute, on se demande si justement en France, par exemple, dans les stratégies que vous évoquez, et vous avez une très grande expérience... ce qui est incroyable, c'est que vous déroulez des stratégies avec des solutions que même les non-initiés peuvent comprendre. On vous comprend parfaitement. Et pourtant, lorsqu'on est dans le pouvoir, lorsque le pouvoir doit trouver des solutions, elles ne sont pas là. Qu'est-ce qui se passe quand des gens comme vous, avec tant d'expérience, et vous êtes nombreux, vous venez de parler de l'Europe, de son mode de fonctionnement et de la manière dont l'Europe est agencée et qui ne marche pas. Et pourtant, vous proposez des solutions qui marchent. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ceux qui marchent n'arrivent jamais au pouvoir pour être mis en œuvre? Alors, c'est un vrai problème quand même.
Alors le jamais n'est pas tout à fait vrai, et c'est mon deuxième point. Mais mon premier point, c'est que la stratégie suppose le recul et le temps long. Et on voit bien que c'est une des faiblesses des démocraties, c'est qu'elles sont happées par le quotidien, happées par le municipal, etc. Donc les politiques ont beaucoup de mal à se séparer du quotidien pour faire de la stratégie. Ensuite, il y a une formule que j'aime beaucoup, qui est de Nicolas Bavrez d'ailleurs, et qui dit au fond, il y a eu deux sortes de présidents à la cinquième. Il y a ceux qui ont gouverné pour la France et ceux qui ont gouverné pour les Français. Et il dit pour la France, il y en a eu trois. Évidemment, le plus grand d'entre eux, c'est Charles de Gaulle, hein, qui lui avançait pour la France, et puis Pompidou et Giscard d'Estaing un peu moins. Et ensuite, on a gouverné pour les Français. Et je crois que c'est important, la stratégie, et je le dis dans mon livre, il n'y a pas de résultat en stratégie. Il n'y a que des résultanteux. Si je fais en France en sorte que la France tienne, alors les Français en bénéficieront. Mais si je vise directement le bonheur du consommateur, ça ne marchera pas. Ah bah. Et donc, il y a cette capacité-là qui est extrêmement importante.
Écoutez David au 32-16.
Moi, je voulais qu'on parle un peu de votre livre, parce que vous définissez la stratégie comme la préparation de l'avenir, si je vous paraphrase un peu. Mais vous citez, l'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Comment?
C'est pas une phrase de Bergson.
Ne vole pas Bergson. Hein. Il est cité.
Parce que c'est une très belle phrase de stratège.
Il semblerait que votre livre, ce soit un manuel d'action politique, puisque la politique n'est que le désir d'avenir, n'est que la préparation des lendemains. Absolument. Et d'ailleurs, désir d'avenir, c'est marrant, parce que ça a été un slogan politique de Ségolène Royal. Et pour autant, on voit que la stratégie nulle part en politique. Voilà. Alors effectivement, on n'a pas d'Assemblée nationale qui nous permette vraiment de gouverner. Comment vous expliquez que la stratégie ait autant quitté l'action publique ?
Alors, c'est un peu pour ça que j'ai écrit. Moi, j'ai écrit beaucoup de livres de stratégie, mais là, j'ai voulu écrire un livre simple, hein, qu'on lit en une heure et demie, et qui donne l'essentiel de la pensée stratégique. Comment faire ? Moi, je parle beaucoup autant de stratégie que d'attitude stratégique. D'ailleurs, je passe un chapitre sur l'attitude stratégique. Qu'est-ce que c'est que de prendre un problème de manière stratégique ? Voilà. Et c'est parce que, ça paraît très compliqué. Les gens ont peur du terme de stratégie. Faire de la stratégie, d'ailleurs, ils font pas la différence entre la tactique et la stratégie. Et on enseigne très peu la stratégie. Moi, j'ai dirigé l'école de guerre où on forme les futurs généraux et les futurs amiraux. En gros, c'est la véritable seule grande école où on forme à la stratégie. Moi, j'interviens beaucoup. Je dirige un cabinet de conseil en stratégie pour les entreprises. Je m'aperçois que les chefs d'entreprise connaissent bien, mais ils n'ont pas suffisamment conceptualisé. Et donc, je crois qu'il faut aider les gens à aller penser de manière stratégique d'abord l'avenir et le présent comme la manière de produire l'avenir.
Il faut envoyer ce livre à tous les candidats à l'élection présidentielle. David
ils ont pas le temps de lire. Ils préfèrent sur Twitter.
Ils écrivent des livres, tout ça aussi.
Ils les font écrire, oui.
David est avec nous au 32-16. Il nous appelle du Var. Bonjour, David.
Oui, bonjour.
Vous avez une question pour le général Desportes?
Oui, est-ce que vous pensez pas que les États-Unis font ça un peu, attaquent l'Iran un peu contre la Chine, voire même contre la Russie, quoi?
Alors, ce qui est absolument sûr, c'est que quand Trump réfléchit à quelque chose, son axe central de réflexion, c'est l'opposition sino-américaine. Donc, il ne prend pas de décision sans réfléchir à.
Donc là, il y a quand même une stratégie alors.
Il a une obsession. Il a une obsession. Et il a raison. Et il a pensé, ce qui n'était pas tout à fait vrai, parce qu'il n'avait peut-être pas vérifié que la Chine avait presque un an de réserve en termes de pétrole. Mmh. Mais il sait que cette affaire-là, si elle durait un certain temps, ferait du mal à la Chine. Donc, vous avez raison. En ce qui concerne Poutine, j'en suis pas très sûr, parce que Trump ne considère plus que Poutine est un adversaire systémique, évidemment, contrairement à la Chine qui l'est.
Merci David. Une dernière question avant de vous laisser, général Desportes. Selon vous, est-ce que Donald Trump est fou?
Non. Il n'est pas fou. Vous savez, être fou, c'est dénuer toute rationalité. On voit bien qu'il y a un certain nombre de rationalité. Mais il n'est pas fou. Il a, comme Poutine n'est pas fou non plus. Il a une rationalité. Le problème, c'est que la finalité propre de Trump, c'est lui-même et l'argent. Et donc, c'est pas avec ça que vous faites de la bonne stratégie. Mais il n'est pas fou. Le problème, c'est que sa rationalité fait un mal considérable, tant aux États-Unis qu'à l'Occident et qu'au monde entier.
Merci, général Vincent Desportes. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous conseille la lecture de son dernier livre, Stratégie, les essentiels, chez Odile Jacob. Dans un instant, l'affaire Patrick Bruel, les plaintes, les témoignages se multiplient. Il est sur scène au théâtre à Paris. Il va faire une grande tournée pour l'anniversaire de l'un de ses albums cultes. Est-ce qu'il faut déprogrammer Patrick Bruel? C'est ce que demandent certaines féministes. Au contraire, il y a la présomption d'innocence. Laissons les affaires être instruite par la justice, même si ça prend beaucoup de temps. On en débat avec vous au 32-16. Tiens, les fans de Patrick Bruel vont peut-être appeler. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story, Charles Consigny, Flora Gebali, Zora Bitant, on va parler de l'affaire Patrick Bruel, ou plutôt des affaires Patrick Bruel. Casser la voix, ou plutôt carrière cassée, c'est la question qu'on peut se poser, parce que les témoignages et les enquêtes se multiplient autour du chanteur-acteur Patrick Bruel, accusé d'agression sexuelle. Pour l'instant, il n'y a pas de procès prévu, mais la question se pose, en tout cas certaines féministes se posent la question, peut-on maintenir la programmation de Patrick Bruel? Il est au théâtre tous les soirs, au théâtre Édouard VII, dans une pièce qui a un grand succès, deuxième partie de Samuel Belchetrit. Et puis pour fêter les 35 ans de l'album Alors Regarde, son album culte, Patrick Bruel repart en tournée cette année. Il fait une tournée des édits. Alors donc il y a des collectifs qui disent bah non, on peut pas maintenir cette programmation parce que ça va invisibiliser les récits, les témoignages de ces femmes qui se disent victimes de lui, ou les reléguer à un second plan face à des impératifs organisationnels et économiques. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut continuer à programmer dans toute la France Patrick Bruel, ou au contraire le mettre de côté parce qu'il y a ses affaires?
Moi je pense qu'il faut respecter les plaintes de ces femmes, déjà premièrement. Si elles ont porté plainte, c'est qu'elles ont des raisons, donc il ne faut pas balayer d'un revers de main ce que ces femmes racontent, et en plus il y a eu plainte, mais jusqu'à présent il y a eu plainte et il n'y a pas de jugement. Donc moi je dis que interdire, c'est juger avant. Ça veut dire que c'est le jugement du peuple, et là en l'occurrence de féministes qui doivent sanctuariser la plainte de ces femmes, qui doivent les soutenir et qui doivent faire en sorte que qu'il y ait un procès et qu'il y ait condamnation ou pas, mais qu'il y ait un procès. Et tant que tout ça ne s'est pas produit, on doit marcher sur ses deux jambes, c'est-à-dire qu'on doit respecter ses femmes.
Donc à la fois, il a le droit de continuer à se produire, et en même temps, on instruit les plaintes, écoute les victimes.
Mais oui, et en plus, sur la question du viol, des agressions sexuelles, etc., on sait très bien qu'en France, là aussi, on marche sur la tête, puisqu'on a des violeurs qui prennent 8 mois, on a des violeurs qui sont acquittés, on a vraiment un panel de punitions qui est absolument abject. Parce qu'il y a, voilà.
Pour l'instant, il n'y a pas de mise en examen. Témoignage et de l'enquête.
C'est pas à nous de juger. D'accord. Il faut laisser les procédures se faire.
Charles, l'avocat.
Non, mais je suis d'accord avec Zora. Je pense qu'on a une justice. On peut déplorer qu'elle soit lente. C'est vrai qu'elle l'est. La justice française est extrêmement lente, singulièrement lente par rapport à d'autres justices. Je rappelle souvent qu'aux États-Unis, le policier qui avait tué George Floyd a été jugé et condamné dans l'année du crime. Nous, après l'affaire Traoré, on est 8 ans plus tard, toujours à l'instruction. On ne sait pas ce que font les juges. Enfin bon, donc on a une justice qui est très très dysfonctionnelle. Néanmoins, on est un état de droit, donc on doit s'y tenir. Et moi, je peux pas une seconde soutenir qu'on censure qui que ce soit sur la base de quelque chose qui n'a pas été établi par la justice. Donc voilà, je suis désolé pour les femmes qui accusent Patrick Bruel. Peut-être le font-elles à raison, mais on ne sait pas. Peut-être le font-elles à tort. Peut-être certains faits sont-ils prescrits. En tout cas, on est obligé, je pense, dans un état de droit, de laisser faire la justice, et on verra après ce qu'il en est.
Flora, avant d'écouter Azedine qui nous appelle.
L'an prochain, on va fêter les 10 ans du mouvement MeToo, qui a été vraiment un mouvement révolutionnaire. C'est-à-dire que depuis 10 ans, des affaires d'inceste aux affaires scolaires, en passant par les célébrités, l'impunité, MeToo a révolutionné le rapport à tous ces sujets-là, et notamment en mettant plusieurs débats sur la table, celui du consentement et celui de la présomption d'innocence, ce qui me paraissait très justifié parce que quand on voyait le nombre d'impunités qu'il pouvait y avoir il y a 10 ans sur ces sujets-là, et la lenteur de la justice et les lois qui sont parfois injustes et le fait que les femmes sont très mal reçues dans les commissariats quand elles vont déposer plainte, etc. Je crois, ceci dit, que le débat ayant eu lieu, la présomption d'innocence, ça reste notre seul rempart quand on veut être dans un état de droit. Et je crois que depuis 10 ans, on a vu d'autres dérives quand le droit est pas respecté, que ce soit dans le droit international, les guerres, que ce soit à plein de niveaux. Et je pense que le débat ayant eu lieu, maintenant on a conscience des enjeux. On sait, par exemple, je sais qu'il y a des formations assez efficaces qui ont été faites sur la police pour qu'elles accueillent mieux.
Et les femmes sont mieux accueillies.
Voilà, pour qu'elles accueillent mieux les femmes, c'est pour ça que je dis qu'elles ont été efficaces. Voilà, les changements adviennent. Alors évidemment, ils sont trop longs. Et évidemment, les femmes sont encore dans une situation d'injustice. Évidemment, c'est très dur de monter un dossier et des preuves sur un sujet aussi subtil qu'est le consentement. Je pense que 10 ans plus tard, le débat ayant eu lieu, on doit respecter la présomption d'innocence.
Azedine est avec nous au 3216 du côté de Strasbourg. Bonjour.
Bonjour Azedine.
Bonjour à tous.
Alors oui ou non, faut-il déprogrammer Patrick Bruel ?
Oui. Pour moi, il faut déprogrammer Patrick Bruel. J'ai l'impression que dans ce pays, le principe de précaution est valable pour tous les sujets. Il est valable pour les manifestations, il est valable pour les rassemblements, pour les regroupements, mais il n'est jamais valable pour les artistes qu'on accuse de viol, de pédophilie et tout ce qui s'ensuit. J'ai l'impression que le principe, moi, c'est les femmes qui portent plainte contre Patrick Bruel, moi je les crois. Moi, j'ai envie de les croire. Leurs paroles, je pense pas qu'on se lève un matin en disant « Tiens, je vais accuser quelqu'un de public, quelqu'un de puissant », parce que Patrick Bruel, aujourd'hui, ça reste quelqu'un de puissant, ça reste quelqu'un qui a du réseau, ça reste quelqu'un de connu et de reconnu pour son art, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que...
Au nom du principe de précaution, il faut
l'image. Et puis surtout pour l'image de ces festivals. Aujourd'hui, enfin, Patrick Bruel est maintenu dans les festivals durant tout l'été, admettons. admettons que l'année prochaine, il est condamné définitivement pour ces histoires. Quelle image est renvoyée pour ce festival? C'est-à-dire que le festival se dira, bon bah super, l'année dernière, j'ai fait monter sur scène quelqu'un qui est accusé d'agression sexuelle.
Oui, mais voilà. Azdine, moi j'entends ce que vous dites, mais on va appliquer ce principe, je sais pas, un problème de voisinage, vous n'aimez pas votre voisin, vous l'accusez... Et finalement, on n'attend pas du tout la décision judiciaire et je sais pas. La présomption d'innocence, elle a rien à voir avec les manifestations. Ça n'a rien à voir. Là, c'est un acte criminel qui est un viol. Ça a rien à voir avec le fait de prendre des précautions pour une manifestation, le parallèle.
J'ai l'impression que dans le monde artistique, on aime toujours séparer l'homme de l'artiste, etc.
C'était le cas. Mais il sera condamné, je serai d'accord avec vous. Quand il sera condamné.
C'était le cas de Jean-Marc Morandini qui a été condamné. Au final, il est resté à l'antenne.
Du bout.
Donc, j'ai l'impression que lorsqu'on a un peu de pouvoir, on a un peu de raison. Ouais,
mais ça, sauf que Jean-Marc Morandini, il avait été condamné.
C'est grave. C'est grave, bien sûr. Ça change tout.
Condamnation définitive. Quand il y a une condamnation définitive après appel
et il est resté un peu.
Mais jusqu'à appel, après il est condamnation définitive, donc c'est pas la même chose.
Qu'en est-il de la sécurité de ces festivals? C'est-à-dire que demain il est possible que mouvement.
Vous dites,
Moi je parle du principe de précaution et puis du trouble à l'ordre public. C'est-à-dire que demain.
Oui, mais c'est pas lui qui trouble l'ordre public, c'est ceux qui viendraient perturber ces concerts.
Et vous, Azedine, par exemple, la présomption d'innocence. Vous, Azedine, la présomption d'innocence et la justice, qu'est-ce que vous faites? Vous en fichez, quoi?
Non, je m'en fiche pas. Je parle juste du principe que pour des raisons de sécurité,
c'est pour des raisons de sécurité.
Je ne lui interdis pas de travailler. Patrick Bruel, aujourd'hui, je pense qu'il a de la FACEM qui rentre tous les mois. Je pense que Patrick Bruel n'a pas besoin
Je comprends pas. Azedine. Pourquoi est-ce que vous voulez interdire les concerts? Finalement, c'est pour des raisons de sécurité. Vous substituez aux salles.
Moi, je pars du principe que je crois les plaignantes et j'ai pas.
Oui, mais une plaignante reste une plaignante.
Mais donc,
en fait, vous dites une victime. En fait, ce sont des accusatrices pour l'instant. Si la justice, effectivement. Non, mais je suis d'accord. Mais moi, je rentre pas dans le fond. Mais on a des accusatrices. Quand une accusatrice, elle devient une victime lorsqu'il y a eu condamnation. Pour l'instant, ce sont des accusatrices. Lui dit qu'il n'a rien fait. Après, il y aura instruction, peut-être procès. On n'est pas parce que pour l'instant, il y a même pas de mise en examen.
On doit appliquer. On doit appliquer ça pour tout. Pour tout acte de délinquance, on peut pas dire à quelqu'un, on vient de porter plainte contre vous, donc vous êtes viré de votre travail, parce que quelqu'un a porté plainte contre vous, et la personne dit, mais attendez, elle a porté plainte contre moi, j'ai même pas eu le temps de me défendre, il n'y a pas eu d'instruction. Vous êtes viré quand même, vous êtes licencié et mis à pied. Ça peut pas marcher comme ça, Azedine.
Merci
Azedine
d'avoir appelé au 3216. Stéphanie est avec nous. Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour.
De Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Alors, faut-il, oui ou non, déprogrammer Patrick Bruel, qui est actuellement au théâtre et qui va partir en tournée des Zéniths?
Mais non, absolument pas. Il doit continuer à faire sa vie, à faire ses tournées, ses concerts. Moi, ce qui me met hors de moi, c'est de juger. Mais qui sommes-nous pour juger? Il n'a pas été jugé, il n'a pas été condamné. Alors, toutes les féministes là qui sautent sur toutes les occasions pour la ramener, je ne les supporte plus.
Et vous ne croyez pas que ça risque de poser problème s'il y a des collectifs qui interviennent pendant ces concerts?
Exactement. Ces collectifs, c'est toutes les féministes qui font des histoires pour des personnes qui ne sont pas jugées. Il faut arrêter.
Non, mais je pense que le rôle des féministes, c'est de continuer à soutenir toutes les femmes qui parlent, et ça, c'est extrêmement important, toutes les femmes qui osent et qui franchissent la porte d'un commissariat pour dénoncer. Ça, c'est important, et c'est pas que les féministes, c'est tout être humain.
Je suis entièrement d'accord avec toi.
C'est tout être humain. Et ensuite, ne pas tomber dans l'hystérie collective en se disant, à chaque fois qu'on accuse quelqu'un, il faut le guillotiner. Et en fait, on n'est plus à cet âge-là. Maintenant, quand quelqu'un...
Si vous avez remarqué que ce sont toutes des personnes connues qui sont tout le temps attaquées.
Mais parce que c'est aussi un milieu de la facilité aussi. C'est un milieu.
Elles vont chercher l'argent où il y en a, hein.
Non, c'est pas ça. C'est...
Non,
c'est aussi
bien
un milieu
ça.
où il y a des gens qui sont
non,
des stars,
non, dire...
prennent des moulards.
Pardon, c'est pas ni vous n'en savez rien. Vous pouvez pas.
Il y a aucun argent à gagner.
Remettre en cause la sincérité de leur démarche.
Et c'est tellement difficile. Personne.
Il y en a pas beaucoup qui ont eu tort.
Oui, mais il y a eu beaucoup de prescriptions.
C'est dur à prouver. Il y a personne ne lance une attaque par plaisir ou par intérêt.
Stéphanie, je vais vous prendre un exemple. Récemment, le réalisateur Christophe Ruggia a été condamné en appel. C'était la semaine dernière. D'ailleurs, la peine a été plus forte en appel. Il était accusé par
l'agresseur d'Adèle
Haenel d'agression sexuelle. Donc, c'est pas vrai que
Il y a des condamnations. Et après, il faut quand même tenir compte. Il faut quand même tenir compte que c'est vrai que dans ces univers, les choses sont plus compliqué que ça. Il y a des gens il y a beaucoup d'hommes qui, sous couvert de pouvoir, et aussi dans une époque où on disait trop rien sur ce genre de pratique. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les filles d'aujourd'hui. Et moi, j'ai des petites filles que ce soit tolérance zéro. Voilà, c'est ça. Il faut pas rejeter le féminisme dans sa forme, on va dire protectrice et importante, parce que c'est le progrès, quoi. On peut plus être les femmes d'avant où une main aux fesses, on rigole. Non, je suis désolée. Mais maintenant, je suis d'accord avec vous. Il faut attendre le jugement. Et s'il est jugé et condamné, ça change la donne.
Mais certains disent que même s'il y a jugement et qu'il y a non-lieu, il y a eu dès le départ l'idée que on croyait les victimes. Donc il y a toujours une ambiguïté
en fait. Mais dans ce cas on change la loi, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que la prescription soit étendue parce que on sait que les victimes mettent beaucoup de temps parfois à parler, notamment quand elles ont été victimes pendant l'enfance. On doit raccourcir les délais de justice sur ces cas-là en particulier. Pourquoi pas, moi je serais pour. Il y a encore plein d'évolutions sur ce sujet. En revanche, je crois que le débat sur la présomption d'innocence, il a eu lieu. C'est imparfait, mais c'est le meilleur principe.
Mais
c'est un peu comme la démocratie. C'est imparfait, mais est-ce qu'on a mieux en magasin ?
Non, mais surtout qu'on risque pire.
C'est fini. Faut-il déprogrammer Patrick Bruel ? La question était posée sur le compte X des Grandes Gueules et vous avez répondu non à 64%, 63,6% précisément. C'est très précis les consultations. Estelle Denis est à mes côtés. Bonjour Estelle.
Salut Olivier, salut les GG. Écoutez, nous avons évidemment parlé de la proposition de la CGT qui veut un nouveau jour férié le 8 mars. C'est bien sûr la date, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de rajouter un jour férié ? On vous pose la question dans un instant au 32-16. On parlera de François Hollande, vous savez, notre ancien président de la République.
De retour.
Il se prépare à être candidat à la prochaine présidentielle. Est-ce que ça vous navre ou est-ce que ça vous réjouit ?
Un camion de flambie pour 2027.
Au moins, il sait faire. En tout cas, il connaît la fonction.
Rappelle-moi pourquoi il n'a pas pu se représenter.
Parce qu'il était assez bas dans les sondages. Alors on a regardé, il était à 22%, exactement comme Emmanuel Macron. Qui ne se représentera pas non plus.
Oh, il a même été plus bas que 22.
Il a terminé, à 22.
Et il est remonté en fait quand il a dit qu'il ne se représentait pas. Je crois que ça l'a rendu
populaire.
Ça.
Et puis moins il parlait, plus il remontait. C'est le principe de la politique en France.
Il faut se taire.
On va parler du prix des billets d'avion le 17 mai prochain. On a trouvé un Toulon-Paris sur Transavia à 641 € l'aller. Et ça, c'est juste avec le petit bagage cabine. C'était 856 € pour un aller Toulon-Paris. 856 € avec des bagages en soute.
Prenez le train.
Est-ce que le prix exorbitant des billets d'avion va vous faire renoncer justement à prendre l'avion ? On en parlera à 13h30.
Les gens vont prendre leur voiture pour aller à Toulon. Ça va te finir
en plus, Toulon, c'est 4 heures de train. Le TGV, c'est super.
4h10. Et le temps
d'aller à l'aéroport. Dans le train, tu t'installes, tu contemples la vue.
Tu parles
avec des agents SNCF qui sont absolument adorables.
Ça, c'est vrai.
Contrairement aux agents des compagnies low cost qui sont absolument insupportables.
Non, sympa aussi.
Le tu préfères.
Être en avance ou être en retard ?
En avance.
Théoriquement, être en avance. Moi aussi.
Mais en retard, tu te fais désirer.
Tu peux te faire lourder aussi.
Emmanuel Macron est toujours en retard.
Mais si t'es en retard,
j'ai le président de la République. Il y a peut-être des trucs à faire.
Ça marche pas partout.
Excuse-moi, mais moi, je trouverais ça suspect qu'un président de la République soit en avance. Ça veut dire qu'il n'a rien à faire.
Même le prince charmant, tu le fais pas attendre.
Justement. Le meilleur moment, c'est la montre.
À demain, les grandes gueules, à partir de 9h sur RMC Story. Bon après-midi à tous.